c'est la pause déjeuner. Mathis vient d'arriver, il est prêt pour jouer. C'est ludique, 100% jeu de société.
Mais bien sûr les amis que je suis prêt pour jouer, bienvenue dans C'est Ludique, votre émission consacrée aux jeux de société hein, tous les jours du lundi au vendredi. Et le vendredi en général, bah, c'est le jour des invités. Aujourd'hui c'est donc une spéciale, le Seigneur des Anneaux, duel pour la Terre du Milieu. Et mon invité bien sera Hélène Delforge, la responsable communication de Repos Prod. Voilà, eh bien je pense qu'il faut commencer tout de suite, alors c'est parti.
C'est la pause déjeuner, Matt pour t'inviter à jouer. C'est ludique, encore plus de nouveautés.
Et au menu aujourd'hui, eh bien c'est le Seigneur des Anneaux duel pour la Terre du Milieu, un jeu d'Antoine Boza et Bruno Catala avec des illustrations signées Vincent Dutré. Cette nouvelle version de duel est éditée par Repos Prod pour deux joueurs à partir de 10 ans. Votre but sera soit de détruire l'anneau et protéger les peuples libres, si vous jouez la communauté de l'anneau, et de l'autre, eh bien Sauron et ses hordes qui sont aux trousses de Frodon et Sam. Vous avez donc 3 manches pour tenter une victoire immédiate ou d'être le plus présent sur la Terre du Milieu. À la fin de la partie, on va revenir hein, tout à l'heure sur les 3 conditions pour l'emporter. Alors au niveau de la mise en place, vous posez le plateau Terre du Milieu en dessous de la piste de quête de l'anneau. C'est une sorte de grande règle qui va glisser. N'oubliez pas hein, les tuiles objectifs, ce sont les hauts lieux. Et ensuite, comme dans Duel, on va placer les cartes chapitres comme indiqué sur le schéma avec hein, des cartes visibles et des cartes face cachée. C'est pas le même schéma hein, bien sûr au cours des 3 chapitres. Mais alors comment on joue? C'est toujours Sauron qui commence, puis ça sera au tour de la communauté. Vous avez le choix entre prendre une carte chapitre accessible ou la défausser pour récupérer une, deux ou trois pièces selon le chapitre. Ou enfin, vous pouvez prendre aussi une tuile au lieu si vous respectez les conditions. Comme dans le jeu Duel, les cartes ont plusieurs couleurs. Les cartes grises vous offrent des compétences pour pouvoir jouer d'autres cartes. Les cartes jaunes vous donnent de l'or. Les cartes bleues vous font avancer sur la quête de l'anneau en faisant glisser Frodon et Sam ou le Nazgûl. Les cartes vertes eh bien, vous permettent de vous allier avec les peuples de la Terre du Milieu. C'est un petit peu comme les cartes science. Lorsque vous aurez 2 symboles identiques, hein, vous avez le droit de prendre les 2 premiers jetons alliance du peuple correspondant et vous en choisissez un et vous appliquez donc l'effet. Les cartes rouges vous donnent la possibilité de placer des unités dans les régions de la Terre du Milieu. Enfin, les cartes violettes, elles vont arriver qu'au 3e chapitre. Elles vous offrent la possibilité de faire des déplacements de vos troupes sur la Terre du Milieu. Alors, pour obtenir les cartes, il faudra les payer en or ou en compétences déjà acquises, sachant qu'une pièce peut remplacer n'importe quelle compétence. Quand il n'y a plus de cartes, on change de chapitre et on place de nouveau les cartes. On joue comme ça à tour de rôle. Durant la partie, vous pouvez l'emporter de 3 façons. La première, et la quête de l'anneau, avec la piste hein, qui glisse si vous jouez la communauté et vous arrivez donc à la montagne du destin. C'est gagné, si vous jouez Sauron, il faudra là rattraper Frodon et Sam. Vous pouvez gagner aussi avec les cartes des peuples, les vertes, hein, si vous réussissez à obtenir 6 peuples différents, vous avez le soutien de tout le monde et vous remportez la victoire immédiatement. Et enfin, il y a le plateau aux Terres du Milieu, où vous allez envoyer vos unités ou construire des forteresses. Par moment, vous avez la possibilité de placer et déplacer aussi des unités. Si vous envoyez une unité sur une zone déjà conquise par l'ennemi, chaque joueur va supprimer une de ses unités. Vous pouvez faire cela hein, jusqu'à ce que vous allez récupérer entièrement une zone. Si vous arrivez à être présent dans les 7, vous remportez la partie. Alors ce que j'en pense du Seigneur des Anneaux duel pour la Terre du Milieu, c'est déjà pour moi un incontournable, hein, clairement. C'est comme duel d'ailleurs, hein. C'est difficile de faire un choix. Dans cette version, une seule pièce suffit pour remplacer une compétence, ce qui peut s'avérer plus simple, mais le jeu est tendu et profond avec ses 3 conditions de victoire. Mais il est peut-être plus accessible aussi pour les débutants. Alors une chose est sûre, il faut bien surveiller son adversaire, car la victoire peut se dessiner pour lui et on ne s'y attend pas. Enfin, que dire, les illustrations de Vincent Dutré sont tout simplement magnifiques. Voilà, duel pour la Terre du Milieu, c'est une spéciale aujourd'hui. Donc on continue d'en parler d'ici quelques instants avec Hélène Delforge de Repos Prod.
Les meeples sont de sortie, c'est la pause à midi. C'est ludique, les jeux c'est magique.
Et dans C'est Ludique aujourd'hui, c'est une spéciale, le Seigneur des Anneaux, duel pour la Terre du Milieu. Et je suis avec Hélène Delforge, responsable de la communication chez Repos Prod. Bonjour Hélène.
Bonjour.
Alors Hélène, merci déjà, hein, avec toi on va parler hein, du succès du moment, le Seigneur des Anneaux, duel pour la Terre du Milieu. C'est un gros succès à ASN, mais pas que. Comment ça s'explique? Est-ce que tu t'attendais à un tel succès dès le début, comme ça?
Alors, moi, j'y crois jamais, donc évidemment, J'attendais de voir, en fait, mais effectivement, quand même, les indicateurs étaient positifs. D'abord parce que le jeu, il est vraiment chouette. Et j'ai été vraiment bluffée parce que je suis une authentique fan des bouquins.
Ouais.
Et quand on m'a montré les premières esquisses d'Antoine Boza et Bruno Catella, en fait, je me suis dit, mais ils n'ont pas juste pris des images et collé sur Seven Wonders Duel, ils ont vraiment transposé une histoire en des mécaniques de jeu. Donc, ce n'est pas un jeu narratif, mais simplement l'essence de l'histoire de Tolkien, elle est là. C'est-à-dire, ouais. Il y a des hobbits qui courent, poursuivis par des Nazgûl pour aller flanquer l'anneau dans le volcan. Il y a effectivement cette conquête de la Terre du Milieu. Et il y a cette idée de communauté, de rallier les gens, et que c'est très difficile de les rallier, on le voit dans toute l'histoire. Et donc, j'étais là, waouh. Et en fait, après, il y a eu les illustrations qu'on a découvertes au fur et à mesure. Et effectivement, on s'est dit, on tient vraiment quelque chose. Et je crois que c'est parce qu'il y avait une espèce d'envie authentique de tout le monde, que c'était vraiment un projet qui a tenu à cœur du début à la fin. On y a, et donc voilà, donc c'est assez extraordinaire que le public, je crois qu'il sent ça quand ouais. Les trucs sont vraiment vrais, ils viennent un peu du cœur.
Alors on va revenir sur l'histoire de ce jeu, on le sait, hein, Seven Wonders Duel, c'est un classique du jeu de société. Alors à quel moment on se dit que l'on va faire une version avec Le Seigneur des Anneaux ?
Ah, on se le dit en fait dans un bar. Lorsqu'on prenait un verre et qu'on évoquait nos grands rêves sur Seven Wonders,
ouais.
Et que notre patron qui joue pas tellement en fait, qui est plutôt un joueur de jeu de rôle, nous a dit en fait moi j'ai un truc sur la liste qui serait vraiment, tu sais, on a une liste de trucs dont on rêve dans ouais. dans sa vie, et il a dit ce serait avoir un jeu avec le Seigneur des Anneaux. Et alors on s'est dit oui, en fait, évidemment. Et donc, Antoine Boza a dit, mais ça marche pas tout à fait avec Seven Wonders. Il y a plein de lieux, plein de merveilles dans Le Seigneur des Anneaux, mais c'est un duel.
Ouais.
Et donc, après, il a appelé Bruno Catella. Et en fait, Bruno Catella, à la base, a tout de suite dit, oui, évidemment. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'il a même joué Boromir dans une pièce de théâtre qu'il faisait avec une troupe amateur, qui a été vu, c'était quand même, il y avait un orchestre et tout ça, ouais. Et donc c'est plein de petites histoires comme ça. Mais vraiment, la genèse, c'est cette espèce de truc où tout d'un coup, un boss dit, moi j'ai un rêve.
Ouais. Et alors, j'ai cru comprendre que Bruno Catella n'était pas si fan que ça du Seigneur des Anneaux, lui, en plus, au début. Il avait pas, je crois qu'il n'avait pas vu de film, il n'avait pas lu de
non.
bouquin.
Exactement, non. Il avait joué dans cette pièce de théâtre, mais. Et il aimait bien l'histoire, mais comme peut-être beaucoup de gens, en fait, les premières traductions françaises étaient assez rébarbatives. Donc le livre a été retraduit là et est ressorti. Alors cette version-là est vraiment beaucoup plus accessible et agréable, même s'il reste toujours cette fin qui n'en finit pas de finir avec. Mais c'est assez charmant quand même. Hein, mais voilà, il reste.
Ouais.
L'histoire reste. Et donc, il a aussi redécouvert l'histoire, le livre, en créant le jeu.
Et puis, aux illustrations, donc, on a Vincent Dutray, donc c'est la Dream Team, hein, on peut le dire. Est-ce que ça a été facile de le convaincre, Vincent Dutray ?
Alors, on n'a pas eu à le convaincre, en fait. C'est Bruno Catella qui est arrivé et qui a dit, vous savez quoi, j'ai Vincent Dutray qui est un ami. Donc, ils s'entendent très souvent, même si Vincent Dutray vit en Corée.
Ouais.
Et qui est fan ultime du Seigneur des Anneaux. Et donc, c'était de nouveau ça. On s'est dit, oui, c'est une évidence. On voulait revenir aussi au style très coloré des illustrations originelles des livres de Tolkien.
Ouais.
Donc, les films de Peter Jackson ont donné une ambiance très sombre.
Oui.
Mais les bouquins n'étaient pas, et les BD non plus. Et donc, on trouvait ça très intéressant de proposer aussi un parti pris esthétique fort avec vraiment... Il y a l'illustration préférée de Bruno Catella, par exemple, c'est un end qui tend la main, enfin sa main en arbre,
ouais.
À un enfant. Et ça, c'est pas dans les livres, c'est juste de la magie en plus qui est vraiment venue du travail de Vincent Dutray.
D'accord. Alors, donc, on a Bruno Catala, Antoine Boza, Vincent Dutré. Maintenant, on veut faire un jeu sur le Seigneur des Anneaux, mais il faut aller aussi obtenir la licence. Et là, ça ne doit pas être si simple que ça.
Alors, il y a un truc qui est particulier, c'est que à l'époque, Asmodée fait partie du groupe Embracer, qui est un groupe de jeux vidéo.
Ouais.
Et Embracer, je vous dis, il y avait un truc avec les astres dans ce projet. en fait, Embracer a les droits sur les livres. Et donc, la négociation des droits n'a pas été difficile. Par contre, la création, ils sont très, très tatillons. Donc, c'est vraiment validé par Middle-earth qui va vraiment vérifier, qui vérifie qu'on ne change rien à l'histoire, qu'on soit vraiment cohérent.
D'accord.
Ils valident absolument tout. Jusqu'à la police des titres, etc. Okay. Tout est vraiment validé par les ayants droit des livres.
Ça doit être compliqué, ça, pour un illustrateur, parce qu'il a dû refaire, Vincent, ses dessins. Comment ça s'est passé?
Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a dû trouver le fonctionnement. Si on présente à quelqu'un un concept d'illustration, il va critiquer plein de fois. Si on lui présente un crayonné, il va pas nécessairement comprendre ce que ça va donner. Donc on est parti de l'idée, après quelques essais, en fait, on leur a donné les peintures de Vincent telles quelles. On
D'accord.
a dit, voilà, ça c'est l'illustration. Et une fois qu'on a trouvé ça, tout est passé tout seul. C'est-à-dire que quand ils avaient le résultat final, ils trouvaient ça super beau, et donc ça passait. Si on leur disait, alors, il y aura un Gollum, ils commençaient à flipper et à dire, à quoi il va ressembler, etc. Et donc, ça prenait énormément de temps. Donc, on a décidé qu'on leur montrait les cartes, on leur montrait le plateau. Et à partir de ce moment-là, ça a été vraiment super simple.
D'accord.
Vraiment, ils étaient enthousiastes aussi. Ils nous envoyaient des commentaires en disant qu'on devait faire des bijoux avec les petits pions. au début, on avait super peur. Et puis après, la vidéo que j'ai faite pour annoncer le jeu,
ouais.
ils n'ont rien changé. Enfin, c'est vraiment unique comme ils sont devenus cool.
C'est top. Alors, on est d'accord. Donc, c'est une adaptation à des livres et non du film. Combien de temps de développement ça a pris?
Alors, en fait, Antoine et Boza et Bruno Catala, c'est des forces de travail. Hein. Donc, quand ils ont des idées, ils démarrent, etc. Donc, en termes de temps de développement, je crois qu'on doit être sur 9 mois environ.
Ah, ce qui est rapide pour un jeu.
C'est rapide, mais il y a eu. En fait, ils ont eu l'idée. Et partant de l'idée, c'est souvent comme ça, hein, 75% du jeu arrive assez vite, parce qu'ils sont vraiment portés par l'idée. Ce qu'il y a, c'est qu'après, dans un jeu à deux, et plus particulièrement sur une mécanique basée à l'origine sur Seven Wonders Duel, on a un travail d'équilibrage qui est énorme,
ouais.
Avec 3 conditions de victoire,
oui.
Avec le fait que ça devait être des victoires coup près, donc on a dû faire plein de parties par plein de gens différents, par des joueurs de Seven Wonders Duel, par des non-joueurs, etc. Il y a eu un travail de testing colossal, franchement, pour arriver à ce que tout soit équilibré, à ce qu'il n'y ait pas une condition qui marche mieux qu'une autre. Enfin, c'est
ouais.
un travail
c'est...
impressionnant.
Et
donc, c'est surtout ça qui a pris du temps.
Ouais, et puis l'idée n'était pas juste d'adapter le Seigneur des Anneaux au jeu duel, c'était d'en faire une nouvelle version en gardant la mécanique, mais en rajoutant
oui.
pas mal de choses, quoi.
Oui, c'est ça. Il y avait un double travail, c'est-à-dire que duel... là, on commence à avoir du recul sur le jeu et on a eu beaucoup de commentaires, de participateurs, de tournois. Et donc, il y avait des choses qui revenaient. Donc, on se rendait... Déjà, les auteurs nous disaient, on ne va pas changer le calcul, par exemple, du commerce dans Duel parce que ça fait partie de l'essence du jeu. Mais ils disaient, sur le Seigneur des Anneaux, on peut en profiter pour rectifier, pour simplifier certaines choses.
Ouais.
Sans enlever la profondeur, mais juste pour rendre ça un micro-poil plus accessible. Et donc, il y a des choses qui étaient il y a des améliorations qu'ils avaient en tête sur Duel, ou en tout cas des modifications qui sont dans cette version 6, qui n'enlève rien à Duel, mais qui fait que, qui change un petit peu du fine-tuning. Et puis, il y a effectivement une vraie refonte. Le système de draft existe, mais dans Duel, il n'y a pas de plateau, il y a beaucoup de choses qui sont nouvelles.
On a toujours une condition militaire, mais là, il y a un plateau. On va retrouver les cartes scientifiques avec les peuples.
Aussi, sur les peuples, il y a beaucoup plus de jetons différents qui vont donner des avantages différents, qui orientent vraiment le jeu, etc. Donc, il y a le système des merveilles qui sont devenus des hauts lieux. On a enlevé la phase de draft qu'on adore dans Seven Wonders Duel. Hein. Mmh. Donc, on commence normalement la partie en draftant les merveilles. Ici, directement, les hauts lieux sont... Il y a 3 hauts lieux accessibles. Mais l'idée, c'était de nouveau de proposer une expérience qui soit moins experte, un peu plus initiée et qui puisse être jouée de manière assez immédiate. Donc, on voulait vraiment un souffle épique. Donc, comme dit Bruno Catala, Sauron, il ne gagne pas en comptant des points. Il faut que la victoire soit éclatante.
C'est ça, c'est vrai. Et puis alors, il y a aussi l'idée avec les personnages qui se déplacent sur le décor avec ce système de règles plastiques.
Oui.
Qui a eu cette idée, là ?
Alors ça, on a une super équipe de développement. Hein. Donc c'est Pierre Berthelot et Tanguy Gréban qui sont aux manœuvres. Et c'est vraiment, vraiment, il y a un truc qu'ils ont avec l'ergonomie des jeux et cette idée de toujours chercher des choses nouvelles ou de chercher vraiment des systèmes pour que l'histoire racontée dans le jeu, la mécanique, soit lié avec du matériel. Donc, on est beaucoup passé au bois, au carton, etc. Mais là, on s'est permis du plastique parce qu'on voulait vraiment cet effet de transparence et ce stress des petits hobbits qui sont poursuivis par Nazgûl. Mmh. Et il y avait un effet aussi d'avantage. Il fallait que ça... Enfin, ça a été un vrai casse-tête. Je vous laisse imaginer les calculs d'apothicaire pour que ça glisse bien, mais pas trop, que ça tombe pas. faire le mien, mais en tout cas oui, ça a été vraiment une volonté d'avoir une expérience ludique originale en utilisant un peu ce qui était nouveau, quoi.
Duel et la Terre du Milieu sont deux jeux différents. Tu les classerais comment niveau difficulté?
Pour moi, Seven Wonders Duel est un peu plus compliqué.
Ouais.
Mais ça dépend aussi de l'expérience des parties est assez similaire dans la tension. Donc dans les deux cas, c'est une vraie expérience intense où on est hyper concentré, où on va. Il y a une vraie profondeur stratégique dans les deux cas.
Ouais.
C'est pas un gadget duel pour la Terre du Milieu, mais je pense qu'avec le système de draft de merveilles et le système de commerce. Seven Wonders Duel, l'original, est un petit peu plus expert, surtout si on y ajoute les extensions.
Oui, en plus, oui, effectivement.
Oui.
Donc, on parlait aussi de la fabrication de vos jeux. Vous avez fait différemment là depuis quelques jeux, au niveau des inserts notamment?
Oui, alors on a les inserts sont en déchets de canne à sucre. Donc, en fait, ils sont effectivement compostables. Ils sont beaucoup. Enfin, disons que leur empreinte écologique est bien meilleure que les plastiques.
Oui. Ouais.
Donc, j'ai jamais testé d'en mettre au compost parce que c'est quand même un peu compliqué d'aller mettre dans son compost du matériel de jeu.
Oui.
Mais un jour, je me suis toujours dit que je devrais le faire. Mais donc, il y a ça, ce qui explique aussi qu'il est blanc parce qu'on ne met pas de couleur dans ces inserts-là. Les pions sont en bois et effectivement, on travaille le carton, les cartes, etc. pour améliorer le côté durable et l'empreinte écologique des jeux. Après, si on fait un bon jeu, il est durable dans le sens où vous trouvez encore des stratégos dans les brocantes.
Oui, donc, oui, bien sûr.
Un jeu, ça dure de base, mais on travaille effectivement et on a travaillé ce déchet de canne à sucre, le sugar cane, pour en faire des inserts.
La question qu'on se posait lundi avec Ludo, pour un éditeur, est-ce que c'est plus facile d'avoir une locomotive pour continuer à créer? Alors c'est le cas de Repoprod, parce que vous n'avez pas qu'une seule locomotive, hein, Seven Wonders, The Time's Up.
Oui, et Just One.
Just One,
en fait,
ouais.
En fait, oui, dans le sens où ça permet d'avoir des équipes de création qui, de moins être en train de courir. Ça fait une espèce de matelas, si je puis dire. Ça tranquillise l'entreprise, évidemment, de se dire, effectivement, on peut lancer des nouveautés, on peut oser aussi. Donc, on a des jeux dont on sait qu'ils sont segmentants parce qu'on a envie de... On a des coups de cœur. Et ça, si on n'avait pas, effectivement, ce qu'on appelle les evergreens, donc nos classiques, ce serait évidemment beaucoup plus compliqué. Mais beaucoup d'éditeurs ont ça. C'est un peu... C'est un peu la licorne, hein, d'avoir effectivement ce jeu qui permet d'ancrer d'autres parce qu'il assure la base, quoi. Il fait que on s'est payé le café de la machine à café, quoi.
Ouais. L'actualité de Repoprod, c'est aussi l'excellent Fairy Ring, dont tu en as deux gros jeux pour cette fin d'année.
Oui. Oui.
C'est compliqué du coup de faire la communication sur les deux.
C'est quand même un cadeau d'avoir deux jeux comme ça, hein.
Ouais.
Je vais pas pleurer. Mais effectivement, c'est des publics différents, donc il y a pas beaucoup de recoupement ou de, enfin, ils ne se concurrencent pas, ça c'est certain.
Oui.
Non, c'est plutôt gay en fait, parce que quand j'en ai assez de parler de Hobbit, je parle de fées et puis vice versa. Donc pour moi, c'est plutôt cool. Franchement, c'est assez chouette. Et puis dans les deux cas, ce qui est très gai, c'est que les retours sont positifs. C'est aussi des jeux qu'on a vu évoluer, où on a eu plein de doutes, plein de moments durs, et quand enfin ils sont là et que les retours sont agréables et positifs, ça fait du bien de voir que le public comprend ce qu'on voulait lui proposer, quoi, et de voir les gens qui jouent au festival pour la première fois. Il y a des développeurs qui sont là et pour eux, c'est magique, quoi.
Ouais. À contrario...
C'est qui sait, et puis ils regardent et ils voient des gens qui rigolent et qui jouent et en fait, ça rembourse les nuits d'insomnie, quoi.
C'est ça. À contrario, est-ce qu'il y a des jeux qui n'ont pas eu le succès espéré que tu dis...
Bien sûr.
Ouais, il y en a, tu te dis, ah, c'est dommage que celui-là, il a pas fonctionné.
Oh, bien sûr, il y en a et on en est... Et il y a plein de raisons, donc je pense à Stupéfix par exemple, qui est la
c'était une réédition,
de Dragon Gun avec les baguettes magiques, où là on a une licence qui par contre est un peu plus tatillonne que Le Seigneur des Anneaux, et qui nous a imposé une boîte très standard, etc., et où le jeu en fait il est... dès qu'on le joue il est super, mais quand on arrive dans une boutique et qu'on a plein de boîtes blanches, avec des petits sorciers dessus, qu'est-ce qui le différencie d'un autre? Donc voilà, celui-là, c'est une vraie tristesse parce qu'on a, il y a eu 8 ans de travail sur ce jeu-là.
Sur Stupéfix.
Donc c'est dommage, mais c'est la vie. Où on a, par exemple, il y a des jeux qui passent plus inaperçus aussi, Monstrolicious, qui est, c'est pas un échec, mais il vient d'être lancé.
Oui.
Et effectivement, il a moins d'aura que Fairy Ring ou Le Seigneur des Anneaux. C'est un jeu à deux, la boîte est petite.
Mais c'est aussi une nouvelle collection que vous faites, la petite gamme, là, aussi.
Oui, c'est ça. Alors, la petite gamme, c'est nos jeux coup de cœur. Donc, il y en a qui cartonnent, il y en a d'autres où c'est un peu plus difficile. Mais c'est un parti pris qu'on a. Ils sont pas chers, on les développe, on les fait comme on voudrait qu'ils soient. Et on attend le public. Et parfois, le public a autre chose en tête. Mais ça fait partie du jeu, justement.
On va finir. Est-ce que tu as un petit scoop?
Oui.
Ah.
Et je grille mon concours, parce que ça va être un concours que je vais faire. C'est un vrai scoop. En fait, il y a un easter egg dans Le Seigneur des Anneaux.
Ouais.
Qui a été glissé par Vincent Dutray et dont nous n'étions même pas au courant. Donc, quelque part dans les cartes, sur un des plateaux, quelque part sur un des hauts lieux, va savoir, il y a le personnage de Tom Bombadil. Donc, c'est un héros de Tolkien qui a un chapeau avec une plume bleue, une veste bleue et des bottes jaunes, qui est un personnage central mais qui n'est pas dans les films et qu'on adore. Et en fait, il l'a caché dans une des villes.
D'accord.
Et donc, je le dis, c'est vous, je vais le dire sur les réseaux de Repoprod, mais si quelqu'un le trouve, j'offre le jeu qu'il pourra donner à quelqu'un. Et, Et j'enverrai, dès qu'on les a, j'enverrai les goodies exclusifs.
Ah oui, les fameuses goodies. J'ai vu que tout le monde voulait sa carte goodies.
Oui, et donc, dès que j'en ai de nouveau, à la personne qui trouve Tom Bombadil, j'en enverrai aussi.
Très bien. Eh ben, en tout cas, c'était un plaisir. Merci beaucoup, Hélène, d'avoir été ce midi dans C'est Ludique.
Merci
pour nous parler de ce jeu qui va cartonner, hein, on le sait. Ça va, il y en a assez pour jusqu'à Noël, ouais, c'est bon?
On verra.
C'est ça.
C'est pas gagné, donc non, c'est pas gagné.
Ouais. Donc il faut se dépêcher, hein, si vous le voulez, en tout cas. Merci beaucoup.
Je ne vais pas dire ça fait pousser à la vente, mais honnêtement, on est en rupture, donc.
Ouais.
Mais en rupture dans les entreprises.